Voilà, on va maintenant partager la parole du Seigneur. Et on va particulièrement se mettre à son écoute pour voir ce qu'il a à nous partager ce matin. Pour que nous puissions nous laisser transformer et métamorphoser pour lui ressembler davantage chaque jour. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour tout ce que nous avons entendu ce matin et merci parce que nous voyons là aussi ton œuvre qui se fait par les uns, par les autres, chacun à sa place et œuvrant avec les dons que tu donnes à chacun en particulier. Merci pour cette harmonie de l'Église. Merci pour ce corps divers et varié que nous formons où chacun témoigne de toi à sa manière. Bénis encore ce moment, ce partage maintenant, cette ta parole qui est proclamée. Et nous voulons vraiment nous mettre à ton écoute, disposer aussi nos cœurs maintenant, faire taire tout ce qui peut travailler en nous, tout ce qui peut nous perturber, nous diriger ailleurs que vers toi. Oui, tourne nos cœurs vers toi, Seigneur. Et rends-nous réceptifs, Seigneur. Amen. Voilà, nous allons ce matin partager un passage donc de l'évangile de Marc, qui est le thème de notre étude biblique qu'on aura vendredi soir. Et donc j'ai pris un passage qu'on avait fait dans la dernière étude biblique qu'on a faite, on a abordé ce thème-là. Et donc je l'ai repris parce que je trouve que c'est un thème vraiment qui m'a beaucoup touché et que je trouve important aussi au sein de l'Église pour chacun de nous. Donc c'est l'humilité. Secret de la vraie grandeur, l'humilité secret de la vraie grandeur, les valeurs du royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu. Et donc on va lire ensemble le texte biblique, c'est donc dans l'évangile de Marc au chapitre 9, je vais lire avec vous. Et on va commencer au verset 30. Le texte va jusqu'au verset 50 ou 51, suivant les versions. Mais je vais juste prendre certains passages, puisque tout ne concerne pas le thème central que je vais aborder ce matin. Donc on va lire ensemble ce passage et on va simplement se mettre à l'écoute du Seigneur et se laisser conduire. Donc je lis pour vous à partir du verset 30 du chapitre 9 de l'évangile de Marc. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et trois jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Celui qui accueille en mon nom un de ses petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. » Et on va maintenant à la fin de ce passage où Jésus nous donne un peu des paroles assez bizarres, mais c'est un peu une conclusion que Jésus nous donne en disant « En effet, tout homme sera salé de feu. » La traduction, donc, second 21, interprète déjà et va un peu plus loin pour qu'on comprenne un peu mieux, et écrit « Et tout sacrifice sera salé de feu. » Pardon, bien, de sel. Il y en a qui suivent, ça c'est bien. C'était un test, en fin de compte, pour voir. Sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Voilà donc le texte que nous avons partagé ensemble. Dans ce passage de l'évangile de Marc, Jésus donc est en train d'enseigner ses disciples dans l'intimité. Vous avez vu qu'il est entré dans une maison et qu'il s'est entretenu avec eux. Et tout le passage que nous voyons se déroule dans l'intimité avec Jésus. Et dans cette intimité, Jésus va approfondir son message. Il va aller en profondeur dans les cœurs. Le début de son ministère, Jésus a annoncé la bonne nouvelle, le message nouveau qu'il est venu apporter, qui est libérateur, qui est extraordinaire, et que justement les scribes et les pharisiens, les religieux ne supportent pas. Mais en même temps, Jésus, dans ce premier temps de son ministère, a révélé sa personne, a révélé qui il est par son enseignement, par des miracles, des signes extraordinaires qui prouvaient de manière indéniable qu'il est le Christ, le Messie annoncé dans les Écritures et qui est venu pour apporter le salut au monde. Et maintenant, depuis donc le chapitre 8 de l'évangile de Marc au verset 31, il y a un changement, il y a une modification dans l'enseignement de Jésus. Alors qu'avant, l'enseignement était tourné vers la foule avec ses disciples, mais maintenant Jésus va centrer son enseignement sur les disciples en premier lieu et il va approfondir l'enseignement. Et dans Marc 8, on voit que le message de Jésus maintenant va changer. Il va annoncer l'œuvre de la croix. Il va annoncer ce pourquoi il est venu, il va partager à ses disciples qu'il va devoir souffrir, qu'il va devoir mourir et ressusciter. Et ce message va vraiment bouleverser et choquer les disciples. Les disciples étaient tout à fait prêts à recevoir ce message de Jésus, de la gloire de Jésus, de voir tous les miracles qu'il a opérés. En plus, quand il a distribué le pain et multiplié le pain pour 5000 hommes, les disciples étaient en première ligne et c'est eux qui distribuaient donc la nourriture et tous les gens les admiraient avec Jésus. Ils étaient à côté du Jésus, ils participaient à sa gloire et pour eux, c'était vraiment extraordinaire ce premier temps. Et ils se voyaient déjà être les ministres de Jésus. Ils se voyaient déjà dans la gloire avec Jésus sur la terre, parce que pour eux, dans leur tête, et pour la majorité des Israélites, le Messie devait venir pour établir un règne terrestre, libérer Israël et les remettre au premier plan. Et donc les disciples étaient heureux, joyeux. Et quand Jésus leur a commencé à leur dire qu'il allait mourir, qu'il allait souffrir, ils étaient complètement perdus. Non. C'est pas ce qu'ils voulaient, eux. Non, on ne va pas mourir, nous. Et c'est vrai que souvent, on peut, quand on pose la question à des chrétiens, voilà, venez à Jésus pour la gloire, pour être bien, pour être avec lui, honoré avec lui. Qui c'est qui lève la main? Qui est d'accord? Amen, alléluia. On est tous prêts. Il y a plein de mains qui se lèvent. C'est génial. Mais quand Jésus commence à nous enseigner, comme il le fait maintenant, dans la seconde partie de l'évangile de Marc, quand il vient nous apporter le message central qui va en profondeur dans nos cœurs, qu'il vient nous révéler que pour arriver à la gloire, il faut passer par la croix, qu'il faut renoncer à nous-mêmes, qu'il faut prendre sa croix pour suivre Jésus, là c'est différent. On voit que les disciples commencent à réagir et même à s'opposer à ce message, puisque Pierre, quand il va entendre la première fois ce message, Pierre va prendre Jésus à part et va le reprendre. Il va le reprendre en lui disant « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Et donc les disciples, dans ce passage, Jésus va aller plus en profondeur. Il va commencer à toucher les cœurs. Et Jésus, donc, va être plus proche aussi des disciples, puisque l'enseignement va se concentrer sur eux, et il va vraiment être dans l'intimité avec eux. Et souvent, on voit qu'il les prend dans une maison. À plusieurs reprises, c'est écrit, ils entrent dans une maison, et il va être là, seul à seul, avec eux, tout proche d'eux. Et là, quand Jésus est proche de nous, il y a quelque chose qui se passe. C'est Jésus qui est proche de nous. Et le point central de notre passage que nous avons lu, ce point central, donc, touche aux relations que nous avons les uns avec les autres, aux relations que nous avons entre nous, dans le corps, dans la famille de Dieu, mais aussi plus loin. Et là, on voit que les disciples sont en train de se quereller pour savoir qui serait le plus grand. Et Jésus va leur apporter un correctif. Il va un peu rectifier leurs pensées, les reprendre gentiment, en leur disant avec tendresse et compassion, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Jésus leur prône l'humilité comme valeur essentielle du royaume de Dieu. Et pour illustrer ce propos, Jésus prend un petit enfant qu'il place au milieu d'eux pour leur montrer un exemple concret. Et là, une nouvelle fois, les disciples sont choqués, ne comprennent pas, parce que les valeurs de Jésus, les valeurs que Jésus leur révèle vont à l'encontre des leurs, sont à l'opposé, mais alors le plus extrême, des pensées du monde. Alors que le monde pense que ceux qui sont grands, c'est ceux qui sont au-dessus, qui sont révérés, qui sont honorés, qui écrasent les gens, qui oppressent les gens. Et Jésus, il leur dit non, dans le royaume de Dieu, celui qui est le plus grand, c'est celui qui est petit, qui sait s'humilier, qui sait se mettre au service et qui accepte les choses que Dieu lui envoie. Et les disciples ne comprennent pas, toujours pas, et ils ne comprennent pas, mais comment entrer dans le royaume de Dieu? Et ils se rendent bien compte que leurs valeurs sont incompatibles avec le royaume de Dieu. Ils se rendent bien compte qu'eux ne sont pas du tout prêts pour cela. Alors, quelques citations sur l'humilité. Le principal chemin vers l'élévation, c'est l'humilité. Une autre citation que j'ai appréciée, c'est « L'humilité ne signifie pas avoir une moins bonne opinion de soi, mais moins penser à soi. » Moins penser à soi. C'est un livre aussi qui a été écrit, j'ai beaucoup aimé la couverture aussi, où on voit justement « Vers la gloire par l'humilité ». Donc je ne sais pas si vous voyez bien, il y a la personne avec, bien habillée avec tout ça, et qui est surpris parce que le chemin vers la gloire, c'est en bas. Ça passe en bas par le petit trou. Et en haut, il y a un chemin qui monte, et là-bas, il y a écrit « Par le haut, même pas la peine d'essayer ». Cultiver l'humilité, c'est développer l'intelligence sociale et émotionnelle nécessaire aux relations saines pour accueillir, écouter, être ouvert et réceptif. L'humilité, c'est savoir que l'on ne sait pas, offrir le bénéfice du doute, ne pas confondre croire et obéir, et savoir, distinguer humilité et fausse modestie. Et le dernier, qui est aussi intéressant, c'est mettre quelqu'un à genoux, c'est l'humiliation. Mettre quelqu'un à genoux, c'est l'humiliation. Se mettre à genoux, c'est l'humilité. Se mettre à genoux, c'est l'humilité. Voilà. Le premier point qu'on va voir, c'est donc quand l'orgueil et l'égoïsme nous collent à la peau. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en juin dernier, en France, on a eu une élection, donc pas présidentielle, une élection pour l'Assemblée nationale. Et à un moment donné, il y a donc un parti, le parti de gauche, qui est sorti victorieux, qui avait le plus grand nombre de voix. Et après, bien sûr, il fallait commencer à réfléchir à un premier ministre. Qui allait être premier ministre? Et donc, dans ce groupement de gauche, qui avait été les premiers, à partir de là, quand il a fallu réfléchir, alors qu'avant tout se passait bien, tout était super, ils étaient super unis, super contents d'être ensemble, c'était génial. Et puis là, quand il a fallu choisir quelqu'un qui soit le premier ministre, donc qui ait l'autorité, qui soit au-dessus de tout, et bien là, il y a eu la division. Pendant plusieurs semaines, ils se battaient entre eux, c'était vraiment très risible, parce que quand on entendait des fois les réactions, ils se battaient entre eux parce que chacun voulait être le premier ministre. Et en fin de compte, la pensée qui les animait, la pensée qui était sous-jacente derrière tout ça, c'était qui est le plus grand. Et ils se battaient entre eux. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien n'a changé depuis. Et on voit que chez les disciples, il y a effectivement un petit souci dans leur cœur. Même s'ils ont été choisis par Jésus, mais il y a un petit souci dans leur cœur. Et souvent, notre société, aujourd'hui, nous parle de l'éveil à soi. S'éveiller à soi, se trouver personnellement pour s'épanouir, pour grandir. Et Jésus, en fin de compte, oui, Jésus fait de l'éveil à soi. Jésus fait de l'éveil à soi. Pas forcément pour aboutir aux mêmes résultats et aux mêmes conséquences, mais il fait de l'éveil à soi. Parce que quand Jésus, qui est la lumière du monde, devient proche de moi, quand je vis dans la proximité de Jésus, eh bien Jésus, du fait qu'il est la lumière, il révèle ce qui est en moi. Il met en lumière tous les travers de mon cœur. Et c'est ce que Jésus va faire et ce qu'on voit dans l'évangile de Marc, à partir donc de Marc 8, 31, on voit à un moment donné que les travers des disciples vont être de plus en plus révélés et de plus en plus mis en lumière. Et en étudiant, des fois maintenant, en regardant ça, Des fois, je me dis, mais comment Jésus a fait pour choisir des gars comme ça, quoi ? C'est incroyable, quoi. Comment est-ce qu'il n'a pas vu ça ? Mais c'est incroyable quand on les voit. Mais ils sont orgueilleux, ils sont égoïstes, ils sont jaloux, pleins de rivalité. Waouh ! Et ils comprennent absolument rien à ce qu'il leur dit. Absolument rien. Et Jésus donc va révéler de manière claire leur orgueil et cet égoïsme qu'ils sont en eux. Et c'est déplorable de voir cela. Mais c'est un cheminement nécessaire pour chacun de nous, parce que quand on vient à Jésus, on est tout feu, tout flamme. On voit la gloire de Jésus et c'est merveilleux, c'est super, de voir aussi l'issue, la gloire future qu'il a préparée pour nous quand on mangera avec lui dans le ciel, avec tous les anges, le Père et tous réunis. Mais Jésus va progressivement, comme pour les disciples, pas à pas, il va révéler notre cœur. Il va révéler qui nous sommes vraiment dans les profondeurs de notre être. Et c'est pas beau. C'est pas beau. Même ça pue. C'est horrible. Ça pue, c'est rempli de choses terribles. Et les disciples découvrent avec difficulté, avec souffrance. Ils découvrent les paroles de Jésus qui leur avait déjà dit que le cœur était mauvais. Il leur avait déjà partagé dans son enseignement. Et je pense que tous les disciples avaient dit « Oui, oui, Jésus a raison. » Il leur avait dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » C'est du dedans que sortent les choses qui souillent l'homme. Ils avaient tous dit oui. Et je pense que nous, des fois aussi, quand on entend ça, on dit oui, oui, il a raison, Jésus. Le dimanche, c'est super, alléluia, il a raison, Jésus. Mais on n'a rien compris encore. Parce que c'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête. Et dans le quotidien, dans la vie quotidienne, dans nos épreuves, dans nos difficultés, quand d'un coup les choses ne se passent plus comme on avait prévu, quand les choses changent et nous échappent et qu'on ne maîtrise plus, c'est là que Jésus révèle et que se manifeste ce qu'il y a vraiment en nous. Et là, comme les disciples, on doit être touché et vraiment, on s'abaisse automatiquement tout seul, je crois, quand on découvre qui on est. Humilier, ça veut dire s'abaisser. S'abaisser pour retrouver notre juste place, celle de créature qui est au service de Dieu et des autres. Et dans cet évangile, l'apôtre Jean est particulièrement mis en avant. L'apôtre Jean, qui pour moi était vraiment un grand, grand, grand apôtre, quand on lit l'évangile de Jean, quand on lit la première lettre de Jean et les deux suivantes, il parle d'amour, il nous parle de l'amour de Dieu, de l'amour les uns avec les autres. C'est extraordinaire et moi je le plaçais toujours à une place très élevée. Et là, l'apôtre Jean, dans l'évangile de Marc et dans les autres aussi, la parole de Dieu nous met en avant les travers de Jean, les travers intérieurs de Jean. Et là, Jean, justement, dans la suite, après que Jésus ait parlé de l'humilité et leur ait montré les valeurs du royaume de Dieu, Jean, visiblement, est touché. Il a été touché par les paroles de Jésus et ça a amené de la lumière dans son cœur. Et donc au verset 38, il est dit, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom,
et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Et voilà que Jean, par cette parole du Seigneur, par l'enseignement de Jésus sur l'humilité, il est repris. Il y a une lumière qui se fait dans ce qu'il a vécu, dans ce qu'il a fait déjà, dans son comportement, et il se rappelle d'un coup qu'ils ont empêché quelqu'un de chasser des démons au nom de Jésus. Parce que cette personne ne nous suivait pas. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas derrière eux, qu'ils ne marchaient pas dans leur clou à eux, et donc ils l'ont empêché. En plus, il faut savoir que juste avant notre passage, les disciples ont essuyé un échec au niveau des guérisons. Ils n'ont pas réussi à guérir un jeune homme possédé et ils ont dû venir à Jésus. Et Jésus a même dit « Jusqu'à quand vous supporterai-je ? » Et là, voir quelqu'un qui réussit, mais qui ne marche pas derrière eux, c'était ça aussi, hein, derrière eux. Ce n'était pas derrière Jésus, mais derrière eux. Et là, on voit de nouveau l'orgueil. L'orgueil qui vient se greffer sur ce que Jésus nous apporte, sur le message de Jésus, mais qui vient faire de l'ombre à Jésus parce qu'on veut, en fin de compte, ne plus amener les gens vers Jésus, mais on veut les ramener derrière nous, derrière moi, pour qu'ils me suivent moi aussi. Ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs. Et Jésus va gentiment les reprendre, dire « Mais non, laissez-les, laissez-le faire cela. » S'il est avec nous, et si ça se passe, c'est qu'il est avec moi. Même s'il ne nous suit pas, mais laissez-le faire. C'est son chemin. C'est moi qui gère, pas vous. Jean aussi, plus loin, à un moment donné, quand Jésus va revenir à Jérusalem, ils vont voir des villes de Samarie qui n'acceptent pas Jésus, qui vont rejeter Jésus. Et c'est Jean avec son frère Jacques, qui vont dire à Jésus, « Seigneur, est-ce que tu veux que nous envoyions le feu du ciel pour punir ces villes ?» Et Jésus va les reprendre et leur dire, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Et une nouvelle fois, on voit l'orgueil qui est là, on voit cet égoïsme qui est là, et ils sont prêts à envoyer le feu du ciel parce que des villes n'ont pas accepté Jésus. Et Jésus leur dira, mais le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour servir, pour être servi, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ils n'avaient pas compris les valeurs du royaume de Dieu. Et l'esprit qui les animait n'était pas l'esprit de Dieu, mais était leur égoïsme, leur propre nature, qui se révélait en se cachant derrière des choses spirituelles qui peuvent paraître spirituelles, mais qui en fin de compte ne le sont pas, et qui ne servent que notre propre chair. L'humilité, valeur essentielle du royaume de Dieu. Au verset 35, on lit « Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et après l'avoir pris dans les bras, il leur dit « Celui qui accueille en mon nom, un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est celui qui m'a envoyé. » Dans ce passage, on voit déjà en premier la douceur, l'humilité et la compassion de Jésus. Face au mauvais comportement des disciples, face à leur orgueil, que Jésus voit, hein, et Jésus sait ce qui se passe dans nos cœurs, et à leur mauvaise réaction, Jésus va s'asseoir Et on voit vraiment un calme. Il n'y a pas de méchanceté chez Jésus ou une agressivité qui veut reprendre ses disciples. Moi, je les aurais déjà repris. Parce que moi, je leur aurais dit, mais qu'est-ce que vous pensez? C'est n'importe quoi ce que vous pensez là. Hein, moi, je les aurais repris sévèrement. Jésus, non. Il va s'asseoir et les appeler auprès de lui pour que dans le calme, il puisse leur dire la vérité et dans l'intimité avec lui, parce que là, il est face à face, hein. C'est pas simplement avec la foule, mais là, il est auprès d'eux, il les voit en face, il les regarde dans les yeux. Donc là, imaginez aussi ce rapport avec Jésus. Quand je suis face à Jésus, quand Jésus me regarde, ça change tout. Parce que son regard, il me transperce. Il va au plus profond de mon être. Et donc Jésus s'assoit, il appelle les 12 et il va les enseigner paisiblement pour leur apprendre la vérité. Et la meilleure manière de voir l'humilité, de comprendre ce que ça veut dire, ben c'est de regarder à Jésus. Et on voit à travers lui vraiment l'attitude de celui qui est humble. Parce que Jésus est humble, Dieu est humble. Lui qui est au-dessus de tous, qui est plus grand que tout, qui est au-dessus de tout, il est humble. Il sait se mettre au niveau de chacun. Sans perdre qui il est, sans perdre son identité. Parce qu'il reste Dieu, peu importe où il reste Dieu même en s'abaissant, il est Dieu. Et il le sait, il n'a pas besoin d'une place particulière pour se rappeler qu'il est au-dessus. Il sait qu'il est Dieu, c'est en lui, c'est sa place qui est là d'éternité en éternité. Jésus vient renverser les valeurs de ce monde. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. L'humilité, c'est considérer les autres comme étant plus importants que moi. L'orgueil, c'est s'élever. Vouloir être plus que ce que je suis pour m'élever au-dessus des autres, les dominer, et pour même m'élever au-dessus de Dieu. C'est l'origine de la chute, ça, hein, c'est l'origine du péché. C'est ce désir de grandir, de quitter la place qu'on a pour aller plus haut, pour m'élever. Et le but, c'est d'aller même au-dessus de Dieu, de diriger et de dominer de manière forte les gens. L'humilité, Jésus est venu nous révéler autre chose. Est venu nous révéler autre chose. L'humilité, c'est s'abaisser. Retrouver notre juste place de créature, pécheresse, et qui est au pied de son Seigneur, et qui ne peut que se confier en la grâce de Dieu, qui est la même pour tout le monde. Car quel est le plus grand ? Demanda Jésus à ses disciples. Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Dans le monde, le plus grand, c'est celui qui est à table. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et cependant, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et Jésus va pousser cette humilité à son comble en allant même donner sa vie pour chacun de nous. L'humilité ne signifie pas avoir une moins bonne opinion de soi, mais penser moins à soi. Pensez moins à soi. L'orgueil et l'égoïsme, c'est être centré sur moi. C'est moi le plus important. Un petit enfant dans une école, le maître leur posait la question, c'est quoi un égoïste ? Et un petit enfant a simplement répondu, un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Vous êtes d'accord avec moi ? Qui est d'accord avec ça ? Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Et le fait aussi de prendre un petit enfant en exemple nous montre aussi que Jésus va à l'encontre des concepts. Il renverse les choses. Parce qu'à l'époque de Jésus, au sein du peuple juif, les enfants n'étaient pas très considérés. les enfants n'avaient pas beaucoup d'importance. C'est les adultes qui étaient importants. Et donc les enfants étaient souvent mis de côté à cause des adultes. On les mettait à côté. Et on le voit avec les disciples, puisque quand, à un moment donné, des parents amènent des petits-enfants à Jésus, les disciples les reprennent parce qu'ils estiment que des petits-enfants, donc en bas âge, très petits, n'ont pas à importuner Jésus. Jésus, c'est pour les grands, pas pour les petits-enfants. Et là, Jésus va à l'encontre de leurs pensées. Et il met un petit enfant au milieu d'eux. Ils centrent toute leur attention sur un petit enfant et ils disent ça, c'est le plus important. Être comme ce petit enfant. Et ce que Jésus met en avant chez le petit enfant, c'est l'humilité. C'est le fait de ne pas être rempli d'orgueil, mais simplement d'être conscient de sa dépendance et de se soumettre aux autres. Jésus aussi, quand, à un moment donné, nous dit que quand nous vivons l'humilité, c'est important pour nous aussi dans l'Église, quand nous vivons l'humilité, c'est Jésus que nous accueillons au milieu de nous. Quand nous ne vivons pas l'humilité dans l'Église, Jésus n'est pas là. Celui qui accueille en mon nom un de ses petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est celui qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, entre nous, nous nous accueillons tous comme des petits-enfants dans l'humilité, en fin de compte, c'est Jésus que nous accueillons au milieu de nous parce que nous nous revêtons des sentiments qui étaient les siens. Alors, comment devenir humble? Comment devenir humble? On voit que les disciples ne comprennent pas ce que Jésus leur enseigne et ils ne comprennent pas l'humilité. Et par la suite, ils vont encore commettre beaucoup d'erreurs liées justement à l'orgueil, comme s'ils n'avaient rien compris. Les disciples avaient besoin de voir leur péché. Ils avaient besoin de comprendre leur dépravation. Et combien ils étaient incapables d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils étaient étonnés par tout ce que Jésus disait et ça les perturbait complètement. Et à un moment donné, ils ont même dit, « Mais Seigneur, qui peut être sauvé ?» Parce que quand on voit les exigences du royaume de Dieu, « Mais qui peut être sauvé ?» Et Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et Jésus, dans son cheminement, les dirige vers la croix. Il les dirige vers cette mort à soi, ce renoncement. Et c'est en voyant la mort de Jésus, en voyant l'humilité de Jésus qui est allée à son comble, qu'ils vont, à un moment donné, touchés par Dieu, comprendre ce que Jésus a voulu dire. Comprendre que eux ne pourront pas y arriver. Comprendre que l'entrée dans le royaume, ils ne peuvent pas y accéder. Mais c'est Jésus qui est mort pour eux. C'est Jésus qui, à la croix, a payé à cause de leur méchanceté, à cause de cet orgueil, de cet égoïsme, c'est Jésus qui est mort à leur place pour les sauver. Et là, ils vont pouvoir se tourner vers lui, abandonner toute leur puissance, toute leur force, toute leur conviction pour se confier, se livrer pleinement et uniquement en Jésus-Christ. Et pour moi, c'est pareil aujourd'hui. Dans notre cheminement avec Dieu, c'est toujours pareil. Plus je vais me rendre compte de ma méchanceté, de mon orgueil, et plus je vais me confier en Jésus. Moins j'ai conscience de mon péché, plus je reste centré sur moi, et moins Jésus pourra vivre en moi. J'ai besoin de voir tout ça, d'être réceptif, d'être humilié, d'être aussi toujours à l'écoute et obéissant à Jésus. Et c'est lui qui va me relever, c'est lui qui va venir vivre en moi. Regardez à Jésus, et je vais finir par ce passage de Philippiens pour nous rappeler l'humilité de Jésus, parce que comme on l'a chanté avant, c'est en regardant à Jésus que nous voyons la vraie humilité et que notre âme orgueilleuse est terrassée et est complètement brisée devant cette humilité que Jésus nous a témoignée à la croix et que nous venons nous confier pleinement en lui. Donc Philippiens 2, versets 3 à 8. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Que Dieu nous conduise. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ton humilité. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu nous as révélé sur la croix. Oui, toi, le Fils de Dieu, tu t'es humilié, tu t'es abaissé, tu es devenu un serviteur. Tu as accepté les injures, les outrages, les calomnies. Tu as accepté qu'on crache sur toi. Toi, le Fils de Dieu, qui méritait tous les honneurs, tu as subi tout cela. Alors que tu aurais pu l'éviter, tu aurais pu condamner l'être humain et retourner dans le ciel, tu n'aurais rien perdu. Mais tu es resté, tu es allé jusqu'au bout. Tu as accepté les souffrances, accepté la séparation avec le Père. Tu as accepté, Seigneur, que nos péchés tombent sur toi. Tu as subi le jugement que le méritaient nos péchés. Et c'est par tes meurtrissures que tu nous as guéris, c'est par tes blessures qu'aujourd'hui nous avons la paix avec Dieu et que nous pouvons venir à toi. Seigneur, viens nous visiter, viens toucher notre âme, toucher notre être entier, et que ton humilité, Seigneur, vienne se manifester en nous, vienne prendre autorité en nous, et que notre orgueil, notre égoïsme soit de plus en plus brisé et mis de côté. Nous voulons vivre pour toi, Jésus. Nous voulons avancer avec toi pour faire ta volonté et pour te rendre gloire. Viens, Seigneur Jésus, par ton esprit, toucher les cœurs et nous visiter, nous aider à avancer avec toi. À toi toute notre louange et toute notre adoration. Amen.